Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h12 donc, le club de la presse numérique et nous demanderons s'il faut lever l'anonymat en ligne ou sur les réseaux sociaux et nous sommes pour en parler avec Amel Guiton de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande et cofondateur de Futur.io.
Bonsoir.
Alors le président de la République, Emmanuel Macron, celui-là, a déclaré récemment qu'il n'était pas tellement favorable à l'anonymat au sujet des utilisateurs sur les réseaux sociaux sous des pseudonymes. Avec les pseudos, il devient difficile d'identifier les personnes avec qui on échange. Les arguments en faveur d'une levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux sont basés sur le fait que l'anonymat nuirait à la qualité des échanges sur Internet. En gros, si vous êtes sous pseudonyme, vous avez tendance, dit-on, on va en parler, à être plus agressif, plus violent, etc. En revanche, ceux qui sont contre cet argument expliquent que ce n'est pas l'anonymat le problème, mais qu'il est important d'être anonyme quand, par exemple, on est employé et que l'on veut s'exprimer sans être vu par son employeur ou alors lorsqu'on discute de questions de santé, par exemple. Alors Emmanuel Macron a fait ses déclarations pendant les rencontres dans le cadre du grand débat sur RMC notamment. Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique, a expliqué sur RMC qu'il était, lui, contre la levée de l'anonymat évoluant d'une certaine manière dans sa position. Donc on ne sait plus trop, pour commencer avec vous Romain Pigenel, on ne sait plus trop quelle va être la position de l'exécutif à ce sujet.
Oui, puis c'est assez inquiétant parce que on peut se dire que le président de la République c'est quand même de quoi quand il parle, quand il lance ce genre de ballon d'essai. Et d'autant plus inquiétant que c'est un serpent de mer qui revient maintenant depuis de nombreuses années. Alors régulièrement, tous les 2-3 ans, on a le sujet qui revient sur le tapis, parfois amené par des acteurs politiques, mais aussi amené par les GAFA, puisque c'est notamment Mark Zuckerberg qui à plusieurs reprises avait
le patron de Facebook
argumenté longuement et de manière très affirmée pour dire que en gros quand on n'a pas honte de ce qu'on est, de ce qu'on dit, on doit être transparent, que être sous sa vraie identité, c'est une condition sine qua non à avoir un débat de qualité. Donc c'est un sujet qui vient depuis longtemps, qui est d'ailleurs un sujet qui est extrêmement mal posé, parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous avez employé les deux mots, on parle d'anonymat, or l'anonymat sur Internet n'existe quasiment pas. En général, on est sous pseudonymat, c'est-à-dire qu'on laisse toujours des traces, sauf à mettre en place des techniques qui sont en général pas utilisées par les internautes pour masquer ces traces. Donc on sait pas trop de quoi on parle. Et surtout, on a quand même le sentiment, quand ça arrive sur la table, que c'est toujours de la part de personnes qui auraient intérêt à, qui auraient envie de limiter le débat ou d'entraver ce qui est quand même la principale force d'Internet, c'est-à-dire la capacité à pouvoir parler librement, sans qu'on sache qui on est, et à pouvoir assumer des positions parfois qu'on n'oserait pas dire dans la vie réelle, parce qu'on n'a pas le droit, parce que l'employeur nous l'interdirait, parce qu'on est issu d'une minorité qui est elle-même harcelée et en danger, etc.
Amel Guiton.
Ça donne assez furieusement l'impression que, pour le coup, Emmanuel Macron surfe effectivement sur une question qui revient un peu plus que d'habitude dans le débat public et avec des arguments qui sont problématiques parce que vous le disiez, le pseudonymat favoriserait les discours de haine, etc. Bon, il y a quand même des études qui
sérieuses, ouais,
qui vont aussi à l'encontre de ce type de conclusion. Notamment, il y a un papier qui a pas mal recirculé ces deux dernières semaines qu'avait publié Le Monde. Je crois que en 2016, des chercheurs de l'université de Zurich avaient étudié à peu près un corpus de 500 000 commentaires sur une plateforme de pétition en ligne allemande et regardé la différence entre les commentaires pseudonymisés et les commentaires des gens sous leur vrai nom. Eux en tiraient plutôt la conclusion qu'en réalité, les gens qui intervenaient sous leur véritable identité étaient de fait plus légitimes à s'exprimer et du coup avaient un discours encore plus virulent. Alors on peut avoir parfois l'impression de l'inverse, mais très honnêtement, il suffit de passer 5 minutes sur Twitter ou sur Facebook pour voir que Facebook ou l'usage du vrai nom est beaucoup plus courant que sur Twitter. Il y a des gens qui se lâchent et qui publient des commentaires qui, pour le coup, en plus tomberaient très facilement sous le coup de la loi, sous leur véritable identité. Donc déjà, le simple fait de dire le pseudonymat favoriserait des discours plus haineux, etc., rien que ça, c'est contestable.
Alors l'argument ou les arguments de Mounir Majoubi, c'est notamment que l'arsenal législatif permet déjà d'identifier les personnes qui tiennent des propos condamnables sur les réseaux sociaux, 500 condamnations l'an dernier en France, techniquement. Il serait au fond impossible de mettre en place la levée de l'anonymat. Si une plateforme l'accepte, les utilisateurs iront sur une autre plateforme.
Surtout, ce que je trouve inquiétant, c'est effectivement quand on s'imagine. Alors, prenons l'hypothèse là. Disons d'accord, on met en place une interdiction de l'anonymat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander à tous les personnes qui contrôlent les plateformes Internet une par une, parce que Internet ça n'existe pas. Ça va être Google, ça va être Facebook, ça va être Twitter, de faire de la recolte d'identifiants. Donc, très concrètement,
on va vous demander votre passeport.
Donc, voilà, ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs, puisque par exemple sur Facebook, de plus en plus, notamment pour les comptes officiels, etc. Quand on veut faire certifier, donner un document d'identité. Mais pour l'instant, c'était quand même quelque chose qui était plutôt, on va dire, limité à des situations exceptionnelles. Ça veut dire que vous allez renverser la règle et faire en sorte que ces plateformes, dont par ailleurs on dénonce régulièrement l'usage abusif de nos données à des fins commerciales, etc., vont constituer un gigantesque réservoir de données permettant de leur mettre en corrélation la vraie identité d'individu plus tout ce qu'on sait sur leur goût, ce dont ils tuent,
avec
ce
qu'ils aiment, etc. Ouais.
Avec une pièce d'identité. Donc, il y a aussi une espèce de schizophrénie, parce que d'un côté, on nous dit il faut combattre effectivement la mainmise des GAFA sur nos données, etc. Et là, on est en train de parler d'idées quand on réfléchit à leur implémentation concrète qui amènerait à donner en réalité encore plus de données à des acteurs privés, ou alors le centraliser dans une entreprise d'État, et dans ce cas-là, c'est le modèle chinois. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre vers quoi on se dirige, si on essayait de prendre ça au sérieux et de dire comment on met en place. Soit un modèle hyper centralisé à la chinoise avec une espèce d'identifiant social où l'État contrôlerait tout, soit remettre ça à des entreprises privées avec toutes les dérives au mieux commerciales, au pire politiques qu'on peut imaginer.
Amel Guiton.
On voit bien que non seulement ça pose un véritable problème, hein, ce type de proposition en termes de liberté d'expression, non seulement ça peut fragiliser encore des communautés qu'il était déjà. L'exemple qui me revenait en tête juste avant de rentrer dans le studio, c'était en 2014. Hein, Facebook, justement, avait fait ce mouvement en disant à partir de maintenant, il faudra s'inscrire sous son vrai nom. Il y avait une réaction extrêmement forte de la communauté LGBT à l'époque pour dire mais vous ne pouvez pas faire ça, vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça aura. Donc il y a aussi ce problème-là. Et puis alors effectivement, comme le soulevait Romain Pigenel, ça pose la question de qui est le provider d'identité, qui est le vérificateur. Moi, j'avoue que ce qui a tendance à m'inquiéter en réalité, c'est que je trouve que de la part de l'exécutif, d'une manière générale, il y a une vraie volonté d'établir un dialogue avec les grands acteurs de l'Internet américain, parce que finalement, c'est plus facile d'avoir deux ou trois interlocuteurs que de devoir gérer effectivement la multitude de l'Internet. Et j'ai l'impression que finalement, tout ça va assez bien ensemble, ce qui est assez problématique. Alors Frédéric, vous allez me dire, c'est un peu ma marotte, hein, mais
j'allais le dire.
D'une certaine manière, on a l'impression que, comme l'a fait Emmanuel Macron, dire « Ah, les fake news, c'est un problème, il faut donc lever l'anonymat », c'est aussi une manière de ne toujours pas se poser la question de l'infrastructure des réseaux sociaux et de comment l'infrastructure telle qu'on la connaît, avec des acteurs qui ont les modèles économiques qu'ils ont et les logiques algorithmiques qu'ils ont, avec des acteurs qui, de fait, favorisent techniquement et la propagation des fausses informations et les phénomènes de hate mobs, comme on dit, les foules haineuses, hein, le harcèlement de femmes ou de journalistes ou de personnes discriminées sur Twitter. Et effectivement, parler de l'anonymat, du pseudonymat, est une manière, de nouveau, de ne pas se poser cette question, parce que ça donne quand même l'impression que le gouvernement ne veut pas se la poser aussi.
Alors on peut prendre des exemples, je pense à Wikipédia, qui fonctionne très bien avec l'anonymat des contributeurs, qui sont régulés, il y a des outils pour réguler. Il y a aussi la question du grand débat lui-même, c'est une plateforme pour le grand débat et les gens y sont souvent de manière anonyme, donc est-ce qu'il faudrait que ce ne soit plus le cas? On peut prendre tout un tas d'exemples et on voit que peut-être finalement on ne peut pas répondre de manière systématique à toutes les problématiques qui émergent autour de ce débat, Romain Pigenel.
J'ai envie de souligner deux points. D'abord, vous parliez du grand débat. Alors sur la première plateforme qui avait été mise en place c'était quel organisme dont le nom m'échappe, le Conseil économique et social, il y avait eu quelques semaines une problématique d'astroturfing. Donc apparemment, il y avait d'ailleurs ça avait été assumé après, des courants proches de la Manif pour tous qui avaient totalement inondé la plateforme du Conseil en l'occurrence avec des propositions pour l'abrogation du mariage gay, etc.
Alors qui n'était pas du tout celle des gilets jaunes.
Voilà. Voilà. Donc c'est un argument qu'on met souvent en place pour dire il faut lever l'anonymat, c'est pour faire sauter toutes les tentatives d'astroturfing. Mais il y a quand même une immense hypocrisie, parce que qui organise l'astroturfing en vérité en France depuis des années? C'est les partis politiques eux-mêmes qui ont systématiquement mis en place des stratégies où on déploie des militants en leur disant prenez des fausses identités, protégez-vous, parfois animez plusieurs comptes. Donc c'est quand même formidable de voir le monde politique qui crie au scandale sur l'anonymat, alors que par ailleurs, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, les partis organisent massivement massivement ce type d'action. Donc déjà, bah, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Et encore une fois, tous les partis ont fait. Donc je pense qu'il faudrait déjà commencer par balayer devant sa porte. Autre remarque, toujours sur la question des débats, il y a quand même quelque chose qu'on dit pas assez par rapport à l'anonymat, c'est qui permet, ou pseudonymat, ce qui permet aussi justement une libération de la parole, une créativité qu'on n'aurait peut-être pas justement, et parfois aussi un peu dans l'extrême. Et il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure, quand Zuckerberg, la première fois, avait pris ses positions en faveur de l'anonymat, il y avait quelqu'un qui lui avait répondu, qui était le créateur de ce forum américain, dont le nom m'échappe, avec le slash B, etc., comment ça s'appelle,
c'est 4chan,
ouais, 4chan, et qui avait tenu, je vous invite à lire ses propos, des propositions assez intéressantes en réponse à Zuckerberg, et disant, mais justement, le pseudonymat, c'est aussi le droit à l'erreur, c'est le fait de faire de la créativité, d'oser aller tenir des positions parfois peut-être extrêmes, mais qu'on tiendrait pas sous son vrai nom, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant si on veut vraiment avoir un bouillonnement des échanges de positions dans le cadre de débats sur Internet ou ailleurs, qui n'aurait pas la même vivacité si chacun était tenu à sa vraie identité. Imaginons que le vote ne soit plus à bulletin secret, par exemple, mais sous son vrai nom, lié à la...
D'une certaine manière, le vote est un bon exemple, parce que là, on a quelque chose qui est secret, mais qui n'est pas anonyme. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne sait pas pour qui vous allez voter, mais en même temps, votre identité est contrôlée.
On sait que vous votez, mais pour autant, on ne sait pas ce que
pour
vous avez,
voilà.
On ne sait pas ce que vous avez mis dans l'urne, ce qui est quand même assez fondamental.
Amal Guiton, est-ce que ça existe l'anonymat au fond? Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui aurait créé une adresse, même email, c'est possible d'ailleurs sans être repéré, mais avec tout un tas d'autres systèmes de vérification, en réalité l'anonymat existe très très peu, et comme on l'a vu, je l'ai dit, beaucoup de personnes ont été condamnées alors qu'elles étaient sous pseudonyme. Donc en fait, on les retrouve dans les cas les plus graves. Si vous, sur un site de rencontre, vous draguez quelqu'un et vous l'assassinez après, eh bien on vous retrouve généralement.
L'anonymat existe sur Internet, mais il demande des efforts, et c'est bien pour ça qu'en réalité les gens qui réussissent à rester anonymes en ligne sont une minorité, et ça concerne absolument pas la plupart des usagers des réseaux sociaux, par exemple, qui laissent à minima effectivement
leur adresse IP, leur téléphone,
et c'est effectivement comme ça que quand il y a des plaintes, par exemple, pour du harcèlement en ligne, on remonte manifestement assez facilement aux auteurs. Enfin, il y a eu des condamnations récentes, etc. Non, je voulais juste revenir sur cette histoire. Effectivement, c'est de la position de Mounir Majoubi, hein, de dire, alors lui, il dit clairement, c'est ni possible ni souhaitable de lever l'anonymat, mais il avait l'air de dire que finalement, sur les sites de démarche publique, ça pouvait se poser. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'en réalité, moi, j'ai en tête un exemple assez intéressant de démarche comme ça, de consultation. Bon, elle avait ses limites, hein, mais c'est la loi République numérique, où il y avait une plateforme et où les internautes postaient des propositions, etc. Il y en avait qui le faisaient sous pseudonyme. Et puis, il y avait aussi des structures en tant que telles qui proposaient des amendements à ce texte, le défendaient, etc. Des sociétés de droits d'auteur, par exemple, des associations de défense des libertés. J'ai pas du tout eu l'impression que la possibilité du pseudonymat nuisait d'une quelconque manière à cet échange, mais qu'au contraire, il y avait d'une certaine façon une forme d'auto-régulation du débat. Alors, ça veut pas dire que ça n'a eu que des effets positifs, hein, puisqu'il y a des propositions qui étaient très portées sur cette plateforme qui n'ont pas eu de traduction législative. Mais en tout cas, en termes de dynamique d'un débat organisé sur Internet, il me semble qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Et peut-être notamment aussi parce que les questions étaient ouvertes, alors que, ça c'est encore un autre débat, mais la plateforme du Grand Débat National, en termes de consultation, entre guillemets, la manière dont c'est rédigé pose aussi question, et que ce soit pseudonymat ou pas, très honnêtement, je pense que ça n'est pas le fond du problème de cette plateforme.
Donc au fond, l'un et l'autre, pour conclure, vous remettez un peu en cause l'idée, le dilemme un peu traditionnel, plus de sécurité, moins d'insultes, pour moins de liberté, moins de possibilités de s'exprimer, pour aller vite.
D'autant plus que, comme chaque fois, admettons qu'on mette en place encore cette règle-là, et je crois qu'on a bien dit les uns les autres combien c'était en plus extrêmement compliqué à faire, qui au bout du compte pourra continuer à agir comme il veut en se cachant? Ça sera les personnes qui seront vraiment nuisibles, parce que ceux qui bénéficient vraiment de l'anonymat pour faire des actes délictueux, etc., ils auront toujours les moyens d'aller chercher des façons de cacher leurs traces, etc. En revanche, ça sera, comme toujours, effectivement, la grande majorité des Français qui, peut-être parfois avec des excès, mais prennent librement la parole, qui seront, par rapport à ça, complètement castrés, si j'ose dire, dans leur capacité de prendre la parole. Donc, c'est quelque chose qui n'empêchera en rien les comportements les plus graves et les plus délictueux vertueux, mais qui limitera de manière totalement insensée et grave, de mon point de vue, la liberté publique.
Amel Guitton, pour conclure.
Et moi, je persiste à penser que c'est aussi une manière de cacher le fond du problème. C'est-à-dire, il y a effectivement des propos haineux en ligne, il y a ces phénomènes de harcèlement de masse, etc. Il y a de la circulation de fausses informations, oui, mais il faudrait peut-être se demander pourquoi, avant de vouloir résoudre le problème en levant l'anonymat, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a effectivement cette crise de confiance dans les médias, pourquoi est-ce que il y a, oui, ces phénomènes de harcèlement, c'est quoi aujourd'hui les logiques de circulation de la parole et de l'information sur les grandes plateformes, qu'est-ce qu'on fait de ces acteurs-là, à quel moment est-ce qu'on va enfin se poser la question de construire des contre-modèles par rapport à ce qu'ils sont. Ça me semble beaucoup plus urgent que de débattre de la question de l'anonymat et du pseudonymat.
Mais on a néanmoins débattu ce
soir.
Oui,
non, mais ne serait-ce que pour rappeler qu'effectivement, ça ne résout rien et que par ailleurs, ça pose des problèmes de liberté d'expression très profonds.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à vous deux, Amel Guitton, journaliste à Libération, Romain Pigenel, ancien conseiller du président Hollande et cofondateur de Futur.io. On se quitte avec un dernier extrait en hommage donc à Michel Legrand, les Demoiselles Rochefort, l'arrivée des camionneurs. Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone et désormais sur Spotify, je crois aussi, Soft Power.